Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 23 avril. Et bien on commence directement, sans sommaire, avec ce communiqué de la Confédération Paysanne du Gard qui dénonce fermement le projet d'extension d'abattoir de poulets de la firme Duc. Ce projet incarne une fuite en avant industrielle incompatible avec les enjeux sociaux, environnementaux et paysans actuels, nous dit donc la Conf. À l'heure de l'urgence climatique et de la relocalisation alimentaire, ce projet fait exactement l'inverse. L'extension de cet abattoir implique en effet une augmentation massive des volumes de poulets. On passerait de 75 tonnes à 250 de capacité, et donc aussi une augmentation de l'élevage intensif, et ce au détriment du bien-être animal, du bien-être aussi des éleveurs et éleveuses, et des employés agricoles de l'abattoir. La Confédération des syndicats agricoles donc pointe notamment des conditions de travail inacceptables, car derrière ces outils industriels se cachent des cadences élevées, une pénibilité accrue et une déshumanisation du travail. Il pointe également une menace pour l'environnement local, à savoir que plus de production, c'est donc plus de pollution, avec par exemple des rejets d'eau usée, une consommation d'eau exorbitante, hein, on passerait de 400 à 800 mètres cubes par jour. Il pointe aussi une circulation de poids lourds incessant, bref, un non-sens écologique dans un contexte de crise climatique dans ce département du Gard déjà sous tension. Pour eux, cela relève d'un choix politique irresponsable, alors que la transition agricole est urgente. Soutenir ce projet reviendrait à tourner le dos à une agriculture paysanne, locale et durable, et ce au mépris des populations environnantes. Et enfin, le communiqué rappelle que des alternatives existent. Il milite pour le développement des circuits courts, d'abattoirs de proximité à taille humaine et surtout d'un soutien institutionnel à l'installation paysanne. Tout ça, autant de solutions concrètes pour un autre modèle agricole. Voilà, ce communiqué exige donc l'abandon du projet d'extension de l'abattoir, l'arrêt du soutien public à l'agro-industrie et des investissements massifs dans l'agriculture paysanne et les circuits courts. Il termine « Nous ne laisserons pas sacrifier nos territoires au profit de l'agro-industrie ». Une autre brève de l'environnement qui s'intéresse au ravage des pesticides. C'est un nouvel outil qui a été mis en ligne. Des citoyens viennent en effet lancer un outil innovant qui rassemble 2000 études sous forme justement de graphiques et d'informations facilement mobilisables. Vous êtes à court d'arguments scientifiques pour dénoncer les pesticides, nous explique le journal Reporter. Eh bien, cette nouvelle bibliothèque digitale participative vous vient en aide. Elle a été créée par un collectif de citoyens engagés, dont on peut citer Fleur Breteau, qui fait partie de Cancer Colère, ou bien des membres des scientifiques en rébellion ou de l'ONG Génération Future. Ce site inventorie alors plus de 2000 études scientifiques qui existent déjà, pour que nul n'ignore les ravages causés par l'industrie chimique. Pour ces militants, il s'agit donc de lever les barrières qui empêchent tout un chacun de s'informer sur les effets des pesticides sur la santé humaine et les écosystèmes. Je suis allé faire un tour sur le site, la page d'accueil, donc ça s'appelle lobbycratie.com. Et vous avez une espèce de schéma circulaire avec plein de noms clés, justement. Et vous pouvez tirer des liens entre des maladies, des types de pesticides, des études. Bref, une manière assez intuitive de se promener et de s'informer et aussi de pouvoir récupérer des informations à tout moment. Soucieux de montrer la fiabilité de leur démarche, ils ont indiqué que les études scientifiques répertoriées sont publiées dans des revues scientifiques et ils appellent la communauté scientifique à venir compléter encore et à faire évoluer cette bibliothèque. Une démarche citoyenne qui vise donc à faire contrepoids à la désinformation observée sur les enjeux écologiques et de santé. Par exemple, alors que les études sur les causes de cancer se multiplient, une offensive tendant à les réduire à des comportements individuels prend de la place dans le débat public. C'est ce que d'ailleurs a été dénoncé sous le terme de « cancer backlash » sur Reporter par le chercheur Marc Billot. Voilà. Je vous redonne l'adresse, ça s'appelle Lobbycracy. Lobbycracy, donc comme le pouvoir des lobbies.com. On reste dans les dégâts sur l'environnement avec encore une brève du journal Reporter qui nous parle de la mine de lithium prévue à Imerys, par l'entreprise Imerys pardon, dans l'Allier, qui est une cathédrale industrielle de l'indépendance française. Ça, ce sont les mots du président Emmanuel Macron. Il était en effet en déplacement ce 22 avril dans le département, donc dans l'Allier, et Emmanuel Macron a visité le site Deschassières, qui doit donc normalement devenir le quatrième gisement au monde du lithium. Casque bleu et gilet orange sur le dos, Emmanuel Macron a mis en avant la méthode Notre-Dame de Paris, sous-entendu pour accélérer les projets industriels, sur fond de dérégulation environnementale, hein, je vous en parle très souvent à ce micro. Macron a notamment fait la promotion d'un nouveau décret qui menace les recours environnementaux des associations. Dans l'Allier, Imerys, c'est donc le nom de ce géant français minier, compte construire une mine souterraine afin de produire de l'hydroxyde de lithium, capable d'alimenter 700 000 batteries de véhicules électriques par an. Sur place, le projet est pourtant vivement contesté. Les opposants s'inquiètent entre autres de la consommation énergétique et des risques de pollution de l'eau. En décembre dernier, l'autorité environnementale pointait aussi de nombreuses zones d'ombre. Voilà, au-delà de cette mine de lithium, le président a annoncé aussi un soutien renforcé de l'État à 150 grands projets industriels, avec, dit-il, 30 000 emplois à la clé et 63 départements impliqués. En jeu notamment de nouveaux sites clés en main, qui sont déjà pointés par les associations comme des régressions écologiques. Et pour cette question minière, je vous invite aussi d'ailleurs à aller vous balader, en tout cas déjà à aller faire un tour sur le site de ce nouveau festival qui va avoir lieu à Turfort ce week-end. Ça s'appelle Les Arts Scéniques et c'est co-organisé notamment par l'ADAM VM, une association qui s'intéresse à problèmes de pollution et qui essaie de trouver des solutions pour dépolluer les anciens sites miniers de Saint-Félix-de-Palière, d'Urfort et des vallées alentours. Donc il y aura de nombreuses conférences et des projections de films notamment très instructives à ce sujet.
Je fais what? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
On reste dans les dégâts environnementaux et au niveau local, c'est à Sumène que ça bouge et que ça va se rencontrer ce vendredi. Vous êtes conviés d'ailleurs à ce rassemblement devant la mairie de Sumène à 10h30 ce vendredi. En cause, une future antenne 4G sur le hameau de Cézas. Depuis plus de 2 ans, un projet qui est mené notamment par Free et la mairie de Sumène et qui veut donc imposer l'implantation de cette antenne. Le problème, eh bien, c'est que justement le site choisi pour l'implantation ne convient pas, en tout cas ne satisfait pas une majorité des habitants de Cézas. Et c'est Gilda qui nous a joint par téléphone et avec qui on a pu discuter un petit peu de cette affaire qui ne remonte pas à hier.
Bah, c'est un projet en fait qui est bien entamé parce que il avait déjà débuté en décembre 2025. Là, on est plutôt dans la dernière phase où on s'attend à ce que les travaux débutent prochainement à Cézas pour l'installation de l'antenne. Mais on souhaite quand même continuer à manifester notre opposition à ce projet parce qu'en fait, l'antenne va être placée en bas du village, visible de tout le monde et assez proche du village, ce qui va quelque peu dénaturer le paysage en fait du village. Les villageois s'étaient mis d'accord pour que Free, donc, qui est l'opérateur qui va installer cette antenne, fasse d'autres propositions d'emplacement pour que ça soit moins préjudiciable pour le village, mais rien n'y a fait. En fait, on n'a pas réussi à les faire bouger, ni Free, ni la mairie de Sumène, qui avait préalablement voté le 26 mai cet emplacement-là. Et voilà, donc c'est pour manifester l'opposition à cette réalisation qu'on se mobilise là vendredi.
Parce que pour juste comprendre un peu le processus de tel type d'opération, il y en a souvent sur le territoire. Donc oui. C'est l'opérateur, là, Free, qui j'imagine demande aux communes dans un périmètre qui l'arrange où est-ce qu'il pourrait implanter cette antenne pour couvrir mieux le réseau, c'est ça?
Oui, donc derrière ça, apparemment, il y a un projet de loi qui était... Enfin, il y avait une loi pour couvrir les zones blanches, donc la mairie de Sumène doit y répondre. Donc, ils ont fait des propositions de terrain à Free, donc ça a commencé par une première proposition en haut du village, ce qui aurait été moins visible, mais l'emplacement était relativement près quand même du village, et du coup, il y a un habitant qui a refusé cet emplacement au motif que c'était trop près des habitations, ce qu'on peut comprendre.
Pour les problèmes de rayonnement, etc.
Oui. Et du coup, la mairie, pas vraiment en concertant, en fait, a trouvé un autre terrain communal où là, il n'y avait plus besoin d'autorisation de riverains. Et c'est celui-là, celui de la Mourade, là, qui pose problème. Le truc, c'est que y a pas mal de choses en jeu. Il faut tirer du câble électrique, donc ça peut coûter un peu de l'argent pour l'opérateur. Il faut trouver un terrain où justement les riverains donnent leur autorisation. Et puis, il faut que ça capte bien. Du coup, un peu par défaut, ils ont trouvé le terrain qu'on a là, qui, comme je le disais tout à l'heure, est pas bien à notre sens, parce que il va avoir un impact super important, alors que on aurait souhaité trouver un emplacement qui masque...
Plus discret, ouais.
Le plus possible l'antenne qui le fond dans le paysage, par exemple sur la montagne de la Fage au-dessus du village, la personne l'aurait vu, ça aurait été pas mal.
Ouais, parce que ces antennes sont assez massives quand même, hein, en Corse.
Il fait 18 mètres de haut. Il y a les récepteurs et c'est pas très beau, ouais. Je pense que ça sera le même acabit que celui que vous pouvez voir entre Lacadière et Ganges. Il y a une antenne comme ça sur la route qui est bien visible le long de la route. Sachant que nous, à Cézas, toutes ces dernières années, ils avaient enlevé les poteaux électriques.
Pour enterrer, pour l'esthétique, ah oui, c'est sûr que ça fait contresens, ouais.
Ouais, pour faire ça, et là, on voit que c'est un peu partout sur le territoire, effectivement, elles pullulent un peu ces antennes-là avec l'arrivée de la 5G. Alors là, c'est pas de la 5G, mais on voit qu'ils en mettent un peu partout parce qu'il y a une histoire de proximité des habitations, apparemment.
Et là, en plus, comme vous le disiez, vous-même, c'est assez intéressant, je trouve, que ce collectif d'habitants ait pris la question et justement essayé de trouver une solution pour pas opposer juste une opposition frontale. En plus, j'imagine que certains sont peut-être aussi intéressés par avoir du réseau chez eux. Et là, donc, vous aviez une autre solution qui n'a pas été retenue.
Alors, on a fait des propositions de solutions. Il y a même des villageois qui ont proposé un terrain, mais l'opérateur a dit que ça passait pas pour lui, que ça fonctionnait pas. Préalablement, on avait entendu, en fait, il y a un certain nombre de gens de la vallée qui captent pas du tout la 3G, 4G, et qui, du coup, eux, étaient embêtés. Et en fait, on a la fibre aussi dans la vallée, sauf que souvent, il y a des interruptions parce que le câble est coupé quand il y a des intempéries trop importantes ou quand il y a X événements. Et du coup, effectivement, c'est assez fragile. Donc ça, en se concertant en assemblée, les villageois avaient entendu que certains avaient besoin de ça, et donc bien compris, et donc on a essayé de trouver une solution, une sorte de compromis qui conviendrait au plus grand nombre, sauf que on est arrivé un peu tard en fait dans la construction de ce compromis, puisque le conseil municipal avait déjà voté ça le 26 mai, sans qu'il y ait beaucoup de concertation en amont. C'est ce qui a fait qu'en fait on n'a jamais pu revenir vraiment sur cette décision du conseil municipal. Et voilà, donc c'est ça que dit l'histoire, c'est que ça serait bien aussi qu'il y ait un peu plus de concertation en amont. Alors c'est peut-être le problème qu'on a avec un hameau comme Cézas, qui est éloigné, plus éloigné de Sumène, et donc on a peut-être un peu moins de communication.
On vous oublie un petit peu peut-être. On vous oublie un petit peu là-haut.
Ouais, peut-être. Ou c'est vrai qu'on met pas mal d'énergie à dire non à des choses. Je pense que la mairie ont l'impression aussi de faire quelque chose pour le village, et c'est vrai aussi, mais voilà.
Et donc là, avec ce rassemblement, donc je crois que c'est 10h30 ou midi. Midi, le rendez-vous à la mairie, c'est ça?
Non, c'est 10h30 devant la mairie de Sumène. Et avant ça, il y aura un rassemblement à 9h à Cézas. Voilà, on espère rencontrer quelques élus du nouveau conseil municipal, puis aussi penser aussi à la suite et à ce qu'on pourrait faire pour améliorer peut-être la démocratie locale à l'avenir. Ouais. Free n'avait pas beaucoup intérêt à changer son plan, parce que là, le terrain, il est relativement proche de l'arrivée électrique. Ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation d'autres riverains.
C'est le plus simple pour eux, quoi.
C'est le plus simple pour eux, ils ont une autorisation municipale qui est bonne en fait pour eux, qui je pense qu'ils n'ont pas beaucoup intérêt à bouger, à nous proposer autre chose, mais c'est difficile de savoir parce que on n'a pas toutes les informations. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir vendredi matin à 10h30 devant la mairie de Sumène, parce que je sais qu'il y avait d'autres hameaux et villages qui s'étaient mobilisés auparavant pour des histoires d'antennes aussi. Donc
oui, c'est une problématique qui est, comme vous le disiez, de toute façon avec la 5G, qui risque d'être de plus en plus récurrente, parce qu'effectivement c'est une technologie qui nécessite beaucoup d'antennes avec des échelles plus petites, quoi, des plus petites antennes des fois, mais qui pour couvrir tout ce territoire. Donc à la campagne, ça peut être assez massif comme impact.
Oui, c'est ce qu'on voit un peu partout, effectivement. Ouais. Ouais.
Ah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir contactés. Voilà, donc 10h30, rendez-vous à Sumène ce vendredi 24 avril. Puis on essaiera de suivre aussi les suites de ce dossier ici à Radio Escapade.
Entendu, et merci beaucoup.
Des nouvelles du monde.
On On termine ces nouvelles du monde, enfin on les continue avant de les terminer avec une autre information, une bonne nouvelle. Les culottes et les coupes menstruelles seront en effet remboursées dès le mois de septembre. Ce sont donc des protections périodiques réutilisables, hein, des culottes ou des coupes menstruelles, utilisées donc pour les menstrualités, comme on dit. Elles seront remboursées à partir de la rentrée universitaire, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce jeudi, là, le 16 avril. La mesure a été adoptée 3 ans plus tôt, elle était prévue dans le budget de la sécurité sociale pour 2024, votée fin 2023. Elle concerne les personnes menstruées de moins de 26 ans, ainsi que les plus précaires. Et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, la C2S, donc le nouveau nom de la CMU, et ça sans limite d'âge. Au total, donc, ça fait plus de 6,7 millions de personnes qui pourront bénéficier de cette gratuité. La précarité menstruelle n'est pas une fatalité, c'est une injustice à laquelle nous devons répondre avec détermination, a commenté suite à cette annonce la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. La précarité menstruelle, c'est, vous le savez peut-être, c'est le coût que représentent justement toutes ces protections périodiques qui sont assumées donc uniquement par les personnes concernées. Et quand on est justement un peu ric-rac au niveau budget, ça représente quand même un gros coût dans le budget à l'année. S'il a fallu attendre si longtemps entre le vote et la mise en œuvre de cette mesure, c'est parce que le décret d'application n'avait pas été publié, ce qui suscite d'ailleurs un peu la colère et l'incompréhension des associations féministes ou des producteurs de protection réutilisable, qu'attendaient aussi. Face aux promesses non tenues, faut-il mettre en cause l'instabilité gouvernementale ou constater qu'une fois de plus, les questions de santé féminine sont laissées sur le côté ? S'interrogeait d'ailleurs la philosophe Jeanne Guillain dans Reporter en novembre 2025, puisqu'à l'époque, la mesure aurait déjà normalement dû être opérante. Malgré cette avancée donc, qu'on salue, le chantier reste cependant ouvert sur les sujets liés aux menstruations. La question du congé menstruel, par exemple, a été déjà rejetée 2 fois par le gouvernement depuis 2024 et aujourd'hui, elle semble être dans une impasse politique. J'en profite, puisqu'on parle de ces considérations, pour vous inviter à écouter ce samedi à midi une émission qu'on a enregistrée hier avec des représentantes du planning familial du Gard, dont une antenne vient d'ouvrir justement sur le sud Cévennes, on va dire, en gros autour du Vigan. Une nouvelle équipe donc qui promet pas mal d'activités, d'interventions et aussi des ressources donc pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Voilà, donc c'est ce samedi à midi, on discute une bonne heure de pas mal de choses. Entre autres, on n'a pas eu le temps d'évoquer toutes les problématiques comme celle de la précarité menstruelle, mais voilà, c'est chose faite. On part en Haute-Loire avec un nouveau drame raciste qui illustre un peu aussi, le racisme décomplexé dont bénéficie une partie de la population, et ce, en regard aussi de l'évolution de la politique et des discours médiatiques. Les faits dont on parle ont eu lieu dimanche dernier, le 19 avril. Hein. On est en Haute-Loire, dans la commune d'Espaly-Saint-Michel. Alors que des enfants âgés de 6 à 11 ans jouaient dans leur lotissement, un homme de 65 ans sort de chez lui armé de sa carabine à plomb et a tiré en leur direction en hurlant des propos racistes, notamment « dehors les Noirs et les Arabes ». Et ce n'était pas la première fois qu'il avait ce type de propos. Un témoignage d'abord d'une des habitantes. « Il a mis en joue mon neveu de 10 ans puis lui a tiré dessus. La balle a touché son mollet. Mon neveu a eu tellement peur, il a cru qu'il allait mourir. » Cette jeune victime a été hospitalisée, mais tout va bien. Une femme témoigne, elle aussi, avoir vu les enfants crier, terrifiés. « Ils nous tirent dessus, ils nous tirent dessus !» Elle l'a vu, les menacer avec la carabine, elle était choquée. Ce tireur a d'ailleurs été photographié, en train de commettre sa chasse à l'enfant, c'est vraiment le terme utilisé, à la vue de tous, en plein week-end, de journée. Des images choquantes, insoutenables, qui n'ont bizarrement fait la une d'aucun JT dans ce pays où les médias ne sont pas... dans un pays où les médias ne sont pas tous tenus par des milliardaires d'extrême droite, mais quand même. Donc l'homme a finalement été arrêté. Il fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour des faits de violence avec arme. C'est tout, c'est ce qu'on lit dans les colonnes du Progrès. Donc l'intention et les propos racistes, pourtant évidentes de la part de tous les témoins sur place, n'est pas retenu. Alors qu'on peut quand même rappeler, comme de nombreux observateurs, que pour le moindre tag en manifestation ou des manifestations, on peut être poursuivi des fois même pour terrorisme. Et cet homme, justement, terrorise tout son quartier, et ce, depuis des années. Les témoignages depuis ont été corroborés et continuent d'affluer. Ainsi, une autre voisine confie au journal Le Progrès « C'était prévisible, dit-elle. Depuis que j'habite ici, il insulte mes enfants et moi parce que nous sommes noirs. » Son voisin l'aura en effet traité à plusieurs reprises de babouin. Il a bouillayé dessus qu'elle habite en France pour profiter du système. Il lui disait de rentrer chez elle alors qu'elle est française. Un vieux raciste, donc coutumier des violences sur les enfants. Il a par exemple jeté un bâton sur un garçon de 8 ans en proférant des insultes haineuses. Une femme d'origine syrienne avait même dû déménager à cause du harcèlement de ce suprémaciste. Il l'avait agressée parce qu'elle portait un voile. Il avait aussi démonté un banc dans la résidence dehors car il n'aimait pas que justement trop de noirs et d'arabes s'assoient dessus et se plaignaient du bruit. Il y a 3 ans, il avait également frappé un enfant de 3 ans d'origine maghrébine avec un bout de bois. Quand je l'ai interpellé, il m'a insulté, explique une voisine. Tout aussi accablant, il avait été filmé quelques jours seulement auparavant en train de déclarer « Je suis raciste et je suis fier d'être raciste, je le dis haut et fort ». Voilà, et donc passage à l'acte ce week-end. Pour toutes ces raisons, la veille des tirs, d'ailleurs, une des habitantes s'inquiétait. Elle s'était rendue au commissariat du Puy-en-Velay pour porter plainte contre son voisin. On lui a dit « Non, repassez dans la semaine parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs le week-end ». Les habitants disent aussi avoir prévenu d'ailleurs les élus de leur commune, mais ça n'a rien fait. Toutes les autorités locales semblent donc avoir laissé délibérément cette violence raciste s'installer dans cette petite commune pendant des années. Une des femmes interviewées fait le constat avec amertume d'avoir envie de partir. « Je ne veux plus que mes enfants jouent dehors », dit-elle, « en bas de chez moi. Je me dis qu'à force, on va me tuer, moi et mes enfants. » Alors justement, si on s'intéresse un peu à la manière dont la chose a été traitée par la police et la justice, le parquet du Puy-en-Velay relate ceci. « Aucun tir en direction des personnes présentes n'a été constaté et aucune personne n'a été blessée. » Les témoins qui ont déposé au commissariat et donc ils nient toute parole raciste ou tir raciste dans cette agression. Or, les témoins qui ont déposé au commissariat ont eu en effet la mauvaise surprise de voir que tous ces parties insultes racistes, etc., et le passif du monsieur avaient été un petit peu effacés de la version officielle, en tout cas de leur témoignage. C'est ce qui fait que, par exemple, SOS Racisme s'inquiétait vivement de la réponse judiciaire. Le mis en cause, je vous le disais, a été remis en liberté dès lundi, après une petite garde à vue. Il fait l'objet d'une simple convocation pour violence avec arme, sans que cette circonstance pourtant aggravante du racisme n'ait été retenue contre lui. Par ailleurs, aucune mesure de protection n'a été proposée aux enfants, ou à leur famille, ou aux voisins. À l'approche des commémorations de la mort d'Aboubacar Cissé ou d'Hichem Mirawi, victimes d'assassinats racistes et islamophobes, SOS Racisme, entre autres, donc rappelle que la haine raciste, qui se banalise dans les mots, finit toujours par se traduire en actes qui menacent directement la sécurité des citoyens français. SOS Racisme appelle ainsi les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur les faits qui se sont déroulés dans cette commune, en prenant en compte l'ensemble des témoignages qui dessinent une scène bien différente que celle dépeinte par les autorités. Voilà, pour ce qui est du monsieur, je vous le disais, il est ressorti libre lundi de sa garde à vue, et il a fait l'objet d'une convocation de la police judiciaire pour violence avec arme. L'audience devrait se tenir en juillet prochain.
C'était vraiment très intéressant.
Et on termine avec une triste nouvelle, le meurtre d'une journaliste libanaise tuée par une frappe israélienne dans la localité de Tiri, au sud Liban. Elle s'appelait Amal Khalil. Et elle était aussi d'ailleurs accompagnée d'une autre journaliste, Zeynab Farage, qui l'accompagnait, qui elle a seulement été blessée par ces tirs. Elles étaient dans une voiture, elles étaient poursuivies par des drones israéliens qui ont fait exploser une voiture face à elles. Les deux journalistes sont donc réfugiées dans une maison voisine à côté, qui a elle aussi à son tour été visée par des tirs. Et dans la foulée, l'armée israélienne, pendant l'opération, a interdit l'accès de la zone aux ambulances, à la Croix-Rouge ou à l'armée libanaise. Les deux journalistes donc ont assisté à plusieurs tentatives de secours successives. Une première équipe de la Croix-Rouge a pu récupérer les corps des victimes. Et ensuite, une seconde tentative d'évacuation de ces journalistes a été interrompue par une frappe de drone israélien. Donc la deuxième journaliste, Zeynab Farage, a été légèrement blessée à la tête. Elle souffre d'une fracture à la jambe. Quant au véhicule de la Croix-Rouge qui l'a transportée vers l'hôpital public de Tebnin, où elle a été admise au bloc opératoire, il a été visé aussi par des tirs israéliens, donc la Croix-Rouge. On voit des impacts de balles sur le véhicule, selon l'Agence nationale d'information. La Croix-Rouge est ensuite revenue sur place, accompagnée d'une pelleteuse, cette fois-ci, puisque la maison avait été complètement soufflée par le tir pour tenter de déblayer les décombres, et ils ont pu ainsi extraire la dépouille de Amal Khalil, qui est décédé. Dans un communiqué, le ministère libanais de la Santé affirme que l'armée israélienne a poursuivi ces deux journalistes après la première frappe, en visant la maison où elle s'était réfugiée. Il accuse également Israël d'avoir entravé la mission de la Croix-Rouge en lançant une grenade assourdissante sur l'ambulance et en la prenant pour cible par des tirs, ce qui a empêché l'extraction d'Amal Khalil. Le ministère a appelé les instances de l'ONU et les instances internationales à mettre fin à cette violation inhumaine par l'ennemi israélien qui devra tôt ou tard rendre des comptes. De son côté, le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes, s'est dit indigné et a rappelé que la journaliste Amal Khalil avait reçu en septembre 2024 déjà une menace de mort attribuée à l'époque à l'armée israélienne, ce qui soulève donc de sérieuses préoccupations quant à un possible ciblage délibéré et pas une erreur de frappe. En effet, elle avait révélé à l'époque avoir reçu une menace de mort israélienne l'avertissant de quitter le sud du pays et la menaçant de détruire sa maison et de la décapiter. Voilà. L'armée israélienne, elle, dit que ce n'était pas prévu et qu'elle fait tout pour éviter de tuer des journalistes. Les autorités et les ONG, elles, de défense du droit des journalistes, dénoncent un crime de guerre. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achèvent ces nouvelles du monde. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bon week-end et portez-vous bien.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.